On peut se tourner dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. On va continuer notre étude. Si vous voulez bien vous lever pour lire ensemble, ça nous réveillera tous. À partir du verset 1 dans le chapitre 12, donc, je vais lire peut-être un peu plus que ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais on va commencer au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercés un fruit porteur de paix, la justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites de voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. On va s'arrêter là, prions. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour ces paroles, parle à chacun d'entre nous, et Seigneur, aide-nous à obéir et à faire ce que tu nous dis dans ta parole. Sois glorifié ce matin, Seigneur, nous te demandons d'être présent parmi nous, Seigneur, nous avons besoin de toi, et nous croyons que comme nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Sois glorifié encore une fois ce matin. Amen. La lettre aux Hébreux, c'est une lettre. Et quand les églises qui recevaient ces lettres les regardaient, ils ne le faisaient pas comme nous, où on regarde des petits passages où notre attention de gens du 21e siècle de 5 minutes s'épuise. Eux, ils lisaient les lettres d'une traite pendant leur réunion. Ils lisaient tout, quoi. Ils lisaient tout hébreu et ça se fait. Hein. Plutôt que de parler ou d'expliquer des choses, on pourrait juste lire le livre. Mais nous, on arrive sur ces passages-là au chapitre 12 et on a commencé l'étude le 1er janvier. Donc souvent, on perd un petit peu le contexte et le fil et l'idée. En plus, on n'est pas forcément de la culture en question, donc il y a des choses qui nous échappent un petit peu, la situation, on a du mal avec les contextes, mais en plus, on n'est pas forcément... Vous avez peut-être pas été là pour plein d'études, puis on oublie, puis etc., etc. Et donc on perd un petit peu les idées et peut-être le poids de ce qui est annoncé. Et Alors, je ne vais pas relire tout le livre, mais des fois, c'est un bon exercice, si jamais, de prendre et de lire tout un livre de la Bible d'une traite. Et ça aide un petit peu, parfois, à saisir d'une manière différente les choses qui sont dites dans la Bible. Dimanche dernier, on a regardé les premiers versets du chapitre 12. Pierre a parlé sur les versets 1 à 4 du chapitre 12, pardon. Il a parlé de l'idée de laisser de côté certaines choses pour gagner, comme un athlète, cette idée de marathon, l'idée de laisser de côté les péchés, de fixer les yeux sur Jésus. Une sorte d'encouragement ou peut-être d'exhortation, peut-être de reprise un petit peu avec ces mots dans le chapitre 3, dans le verset 3, pardon, où il leur dit, mais pensez à ce que lui a enduré. Ces chrétiens hébreux étaient découragés par leurs circonstances, étaient découragés et pensaient peut-être laisser la foi chrétienne parce qu'ils avaient souffert pendant un moment et ils hésitaient à revenir en arrière. Et l'auteur leur dit, mais regardez Jésus, regardez tout ce que lui a enduré. Ici, au verset 4, il leur dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat pour le péché. Et c'est un verset qu'on peut lire comme ça, mais je crois que c'est peut-être, d'une certaine manière, des mots un petit peu durs. C'est un petit peu... peut-être comme une... peut-être comme une petite claque, quoi. Allez, vous n'êtes pas encore mort, c'est que vous n'avez pas encore fait tout ce que vous pouviez faire pour résister, résister dans le combat. Vous pleurnichez, là, vous sentez... vous avez un peu pitié de vous-même et quand je dis ça, il faut qu'on fasse attention, je pense, avec ces chrétiens hébreux, de pas les juger, de se dire, ouais, ils étaient faibles, ils voulaient revenir en arrière, etc. Ils n'avaient pas encore résisté jusqu'au sang. Je pense qu'ils avaient sans doute beaucoup enduré pour arriver au point où ils en étaient. Ils avaient beaucoup plus enduré que la plupart d'entre nous, sans doute. Étant hébreux, ils avaient sans doute, en devenant chrétiens, subi une forme d'exclusion au niveau de la société, peut-être au niveau de leur famille, au niveau de leur foi. Ils avaient sans doute été, comme ils ne participaient plus au culte juif, il y avait peut-être cette distance, comme ils se mélangeaient avec les non-juifs, ils avaient peut-être leurs frères juifs qui n'étaient pas chrétiens, qui ne voulaient plus se mélanger avec eux. Il y avait une persécution physique au niveau de la société avec l'Empire romain qui est arrivé à différents stades. Et dans ces circonstances-là, on peut dire légitimement que ça arrive de se fatiguer dans ces circonstances et de dire mais qu'est-ce qui se passe, et d'avoir du découragement. C'est tout à fait naturel. Mais le danger, c'est de pas comprendre dans ces situations-là et d'avoir une sorte de pitié envers soi-même, de dire oh là là, c'est dur, d'être un petit peu centré sur moi-même et ce qui m'arrive et dire Dieu, mais pourquoi tu laisses ça arriver, etc. Et ou alors de croire les mensonges de l'ennemi, peut-être que Dieu ne m'aime pas, peut-être que c'est pas vrai, etc. Et de laisser toutes ces choses, de croire ces choses et de on va dire s'adonner à ce découragement et se laisser aller dedans et l'accepter et considérer de revenir en arrière. Je pense que c'est lié à une fausse conception de Jésus et de Dieu, de la vie chrétienne. Nous pensons que Souvent, on va citer les versets que Dieu a de bons projets pour nos vies, etc., en pensant implicitement que c'est qu'on ait une belle maison, une belle famille, qu'on soit tranquille avec un bon boulot et que tous nos souhaits se réalisent, comme dans tous les films hollywoodiens où tout le monde est toujours promu, chef de quelque chose, pour arriver à ses fins et à réaliser tous ses rêves de créativité, d'accomplissement professionnel. Et c'est pas ce que Jésus souhaite pour nous. Il a de bons plans et de bons projets, mais qui sont différents. Ça veut pas dire qu'il peut pas nous accorder ces choses. Il y a plein de gens croyants, fidèles, à qui il peut accorder une belle vie, une belle situation matérielle et tout ça. Mais Dieu veut surtout nous sauver et veut nous changer en l'image de son Fils. Et quand on regarde son Fils dans les évangiles, Jésus, c'est une perfection morale, c'est obéir complètement à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut parfaitement. Et donc, quand on ne comprend pas ces choses et que les choses dans nos vies sont difficiles, on peut arriver à un découragement et à remettre un certain doute vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la foi chrétienne. Et avec cette idée de ce que Dieu veut faire dans nos vies, il y a aussi l'idée de quelque chose sur le long terme. Et on va y revenir après par rapport à notre texte. Mais cette idée que nous ne sommes que de passage. Et notre objectif ne doit pas être ce monde, mais doit être le ciel. Et notre objectif ne doit pas être de nous concentrer sur ce que nous pouvons accomplir matériellement ici, mais ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, pour ce qui sera un trésor au ciel. Dans Matthieu 6, au verset 19, c'est des versets que nous connaissons dans le Sermon sur la montagne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans ce chapitre 12, il va encourager, exhorter et sur la deuxième moitié qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, il va parler du monde qu'il va secouer. Il va faire trembler la terre. Il va tout remettre à plat d'une certaine manière. Et les choses de ce monde et les choses que nous aurons accomplies pour ce monde vont passer. Et ce que nous aurons accompli pour Dieu, pour Jésus, c'est ces choses-là qui vont rester. Et nous devons avoir cette optique. Et moi, comme vous, je sais que c'est évidemment difficile et que face à ce genre de texte et quand je considère ces idées-là, c'est dur. je me disais en préparant l'étude que d'une certaine manière, si je me réveille le matin et que je ne demande pas à Dieu « qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui ?» Si ce n'est pas mon objectif de la journée, d'une certaine manière, je n'ai pas été à l'image de Jésus. Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit le premier truc et qu'on soit dans une sorte de légalisme, etc. Mais c'est cette relation et de vouloir faire ce que Jésus veut tous les jours. Alors on va regarder à partir du verset 5 maintenant, plus en détail. Donc il leur dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Puis il continue « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. » En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque vos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Je suis devenu papa il y a 2 ans et demi, avec Daphné, et je crois qu'à chaque fois que j'ai préparé une étude biblique ou que j'ai dû partager quelque chose, il y a cette imagerie de l'enfant et du père et la relation entre Dieu et nous qui est comparée à ça. Et quand je regarde Daphné, je peux dire à ceux qui n'ont pas d'enfants, vous verrez le nombre d'illustrations et d'exemples et votre compréhension de comment Dieu nous regarde et nous traite sera complètement changée. Et c'est quelque chose, je pense, qu'on peut comprendre peut-être intellectuellement, mais qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas été parent. Et ici, le texte appuie sur cette idée, mais avant l'idée du père et de l'enfant, il leur dit, et on passe dessus, il leur dit « Vous avez oublié ». Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent dans la vie. C'est quelque chose qui m'arrive souvent par rapport à Dieu, c'est j'oublie. J'oublie les promesses de Dieu, j'oublie les exhortations, j'oublie de les choses que je devrais savoir, j'oublie les versets qui devraient m'encourager ou me parler à certains moments. Alors il leur cite, c'est un passage dans Proverbe que ces chrétiens devaient bien connaître, ces chrétiens hébreux. Et on sait aussi que souvent, dans les situations difficiles, on oublie les vérités simples de Dieu. On peut se dire, mais est-ce qu'il m'aime? Et c'est pas. C'est, la Bible, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Dieu m'aime. C'est les réalités. Et on voit dans Éphésiens, dans le passage où il nous parle des armes, des choses que nous devons revêtir, de l'armure, que la parole de Dieu est quelque chose qui, en la faisant nôtre et en ne l'oubliant pas, nous permet de détourner les mensonges de l'ennemi. Et donc il leur dit, vous avez oublié. Et puis il leur dit l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Et il leur cite donc le passage dans Proverbe. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Tout ce passage, en gros, ce qu'il leur dit simplement, c'est il leur dit « Vous avez des difficultés, vous avez des choses qui sont dures, oui. Vous pensez que c'est Dieu qui ne vous aime pas ou qui vous a oublié ou qui vous punit, mais ce n'est pas vrai. Ce qu'il fait, c'est qu'il vous corrige. » Et cette idée de correction, souvent on a une mauvaise image où on s'attarde peut-être plus sur la mauvaise image que l'image positive. Je vais te donner une bonne correction, tu vas voir. Il y a un côté négatif, mais de revenir alors à l'idée du père. On a des parents bons ou mauvais dans ce monde. Certains ont des parents meilleurs que d'autres. Certains ont des parents qui sont carrément mauvais. On peut dire, j'ai du mal à comprendre l'idée de Dieu qui est un bon père, etc. Mais tout le monde, je dirais, de manière intuitive, peut nous dire s'ils ont eu un bon parent ou un mauvais parent. Et ça, c'est intéressant. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui me dit je sais pas si mes parents étaient bons ou mauvais. Ils ont une impression de ils étaient bons ou ils étaient pas bons. Et quand on est parent, quand on est on regarde nos enfants, on a une envie de les faire grandir jusqu'au maximum de leur potentiel. On a envie de voir ce qu'ils peuvent devenir. On a envie que quand ils sont plus âgés, ils puissent avoir le succès, qu'ils puissent être aptes à vivre correctement leur vie, à être autonomes, à ne pas avoir besoin de quoi que ce soit, à, s'ils ont des talents ou des intérêts, à les développer et tout ça. Et ça passe par de la correction quand on est parent. On doit les reprendre, on doit les corriger à certains moments. L'idée de correction, ça peut être aussi de les guider, d'essayer de les encourager dans une direction. Alors, moi, en tant que père, il y a souvent des moments où je le fais parce que il y a quelque chose qui me gêne moi personnellement. Si je suis en train de faire quelque chose ou je suis peut-être concentré sur quelque chose ou j'en sais rien et Daphné vient me voir et dit viens papa, viens jouer ou j'en sais rien ou fais trop de bruit ou viens mettre ses trucs au milieu de mes affaires, etc. Je vais la corriger, mais c'est égoïste, c'est pas forcément dans l'objectif de son bien tout le temps, parce que nous, on n'est pas bon, mais le Seigneur, lui, est bon. Lui, au verset 10, il dit que nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu, lui, le fait toujours avec l'objectif de notre bien et notre développement dans la vie avec lui. Et il y a peut-être aussi, quand on parle de ça, l'idée qu'on n'a pas forcément envie que Dieu nous corrige, l'idée qu'il y a Dieu qui est là et que, suivant ce qu'on fait, il va nous guider, nous laisser des choses arriver pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire grandir. Et parfois, quand on pense à ça, on peut avoir un petit peu peur de se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais là aussi, je pense que c'est dû à une mauvaise connaissance de Dieu. Dieu nous aime et il est tellement bon envers nous. Le passage au verset 5, lorsqu'il dit « ne méprise pas la correction », ça implique qu'il y a des enfants et des gens qui méprisent la correction et qui la regardent avec sans accorder d'importance à cette correction. Et je pense que, alors j'ai Daphné assez docile, je sais qu'il y a des parents qui ont des enfants qui entre guillemets méprisent la correction que leurs parents peuvent leur amener, et c'est en général quelque chose de négatif, quelque chose du dehors aussi, qui est souvent si on voit des parents je sais pas moi dans un centre commercial et leur fils est en train de se jeter par terre et de pleurer et de crier parce qu'il a pas ce qu'il veut et que le parent essaie de le corriger mais qu'il en a rien à faire. En général, du dehors, on regarde pas cette situation-là avec une grande, avec un regard très positif. On se dit, c'est quand même comment cet enfant va finir. Et dans cette idée, encore une fois, de parents qui corrigent, alors il leur dit, si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous sont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Dans notre traduction, il est écrit « enfant illégitime ». Dans certaines des anciennes traductions, ils utilisent le mot « bâtard » qui veut dire « enfant illégitime » mais qui est un petit peu moins politiquement correct de nos jours. Et c'est une idée aussi là qu'on comprend très facilement qu'en tant que parent, on a quand même un regard envers ses enfants où on a envie de les reprendre, on a envie de les corriger, on n'a pas envie de laisser aller. Mais peut-être pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, on n'a pas la même sensation, peut-être par envie d'enlever une gêne ou quelque chose, mais c'est aussi l'idée souvent quand, dans la culture peut-être de nos jours, c'est peut-être cette idée par exemple d'un très mauvais père ou d'un père qui n'est pas le père de l'enfant mais qui s'en fiche un petit peu, qui ne va pas du tout s'impliquer, qui ne va pas s'impliquer dans la vie de l'enfant, qui n'a pas de souhait par rapport à l'enfant. Et donc il encourage ces chrétiens, il leur dit, mais vous endurez ces moments difficiles et vous les regardez, ces choses, comme des choses mauvaises, comme des choses, peut-être que Dieu vous envoie comme une punition ou comme quelque chose de mauvais. Et il leur dit, mais c'est un signe d'amour, c'est un signe que vous êtes vraiment ses enfants, qu'il veut vous développer, qu'il veut vous faire grandir, qu'il autorise ces choses pour que vous appreniez, pour que vous vous appuyiez plus sur lui. Il se sert de ces épreuves pour développer votre caractère et pour vous rendre plus comme Jésus. Et là, avec cette idée-là de développement, de formation, cette idée de correction, on peut se tourner revenir vers cette idée d'athlète qu'on a vu, de courir la course, de courir le marathon, de ne pas s'arrêter, de ne pas fatiguer. Et on peut là aussi regarder et voir avoir plein d'idées qui nous viennent. Si quelqu'un, par exemple, de jeune, un jeune athlète qui est très doué, ou peut-être un musicien ou quelqu'un dans un autre domaine, mais qui a un professeur ou un entraîneur, cet entraîneur ou ce professeur voit le potentiel et veut le développer. Et pour ce faire, il doit donner des choses difficiles à l'athlète ou par exemple au musicien à faire. Et ensuite, il doit corriger les choses qui ne vont pas. C'est quelque chose, moi j'aime bien le foot, c'est un exemple qui me parle. Il y a des fois des joueurs, par exemple, qui ont un potentiel énorme, mais qui n'écoutent pas leurs entraîneurs, qui ne font pas ce qu'on leur demande, qui ne s'entraînent pas dur, qui préfèrent aller faire la fête, etc. Et qui gâchent leur potentiel, qui n'arrivent pas à la plénitude de ce qu'ils pourraient être. Et c'est un petit peu l'idée ici. Quand on voit un potentiel gâché, c'est toujours triste. C'est toujours, on voit quelqu'un qui est très doué, mais qui n'a pas envie de faire d'efforts, qui a envie de rester là tranquille, qui n'a pas envie de se faire mal, en quelque sorte. Et Dieu, c'est un entraîneur. Il veut nous faire, entre guillemets, il veut nous faire mal pour que nous grandissions, pour que nous arrivions à la plénitude du potentiel qu'il lui voit en nous. Il veut nous développer, il veut nous faire grandir, et ces choses qui ne sont pas agréables, je ne sais pas si vous faites du sport, quand vous avez quelqu'un qui vous pousse jusqu'à épuisement, c'est jamais agréable, mais après, on arrive à un niveau où on se sent bien, où on est plus à l'aise, où on arrive à quelque chose. Et là, on profite des fruits de ce travail. Et alors, c'est le verset 11. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Quand on parlait tout à l'heure de l'idée que Dieu veut nous développer, qu'il a un plan pour nos vies, qu'il a des projets pour nous, qu'il veut nous utiliser, ça implique que lui sait ce qui va nous arriver plus tard, il sait où nous allons, il sait les choses que nous allons endurer dans la vie, et les épreuves qu'il nous laisse traverser, pas toujours, mais souvent, peuvent nous permettre de grandir et de nous préparer pour ces choses qui vont arriver plus tard, que nous ne soupçonnons pas. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Quand on voit la vie de beaucoup de personnages dans la Bible, de situations où il y a des choses très difficiles qui leur sont arrivées et qui plus tard leur ont permis d'être les héros qu'ils ont été grâce à ces expériences avant. Parfois, ils n'ont pas réussi, il y a des contre-exemples aussi ou des exemples à ne pas suivre. On peut penser par exemple à David qui tue Goliath. Dans l'histoire de David, de la vie de David, qu'est-ce qu'il était arrivé avant qu'il tue Goliath ? Il avait tué un ours et il avait tué un lion. Et mettez-vous dans la peau, je ne sais pas, on lit ça en deux secondes, on passe ça en dessin animé, etc. Mais il faut quand même se dire que David, qui était un adolescent, s'est retrouvé tout seul. Imaginez, vous êtes à la montagne tout seul à 16 ans et un ours qui débarque. Est-ce que vous dites « Dieu, merci, ah, c'est chouette, super !» Et il aurait pu dire « Oh, pauvre de moi, il m'a envoyé un ours, il faut que je cours. Dieu, comment tu peux laisser ces choses arriver ? Dieu, mais pourquoi un lion maintenant ? T'es sérieux ?» Et bien souvent dans la vie, c'est un peu la réflexion qu'on peut faire à Dieu. On se dit « Mais c'est pas vrai. » Vous avez, de manière peut-être peut-être moins importante, mais vous avez jamais des jours comme ça. Vous avez l'impression que Dieu il vous met des couches. Vous arrive un truc et puis vous arrive un autre truc et puis vous arrive un autre truc et vous dites quand même ça va. On a compris, c'est une blague, d'accord. Mais l'idée c'est que. Et pour revenir à un peu l'idée que je disais au début, c'est cette idée de regarder le résultat final et d'avoir cette sagesse de voir où Dieu veut nous amener. Et c'est un petit peu pareil, par exemple, avec un athlète. Un entraîneur peut voir le potentiel et voir jusqu'à où il peut aller quand il a de l'expérience. En tant que parent, on peut voir un enfant et se dire qu'il a du potentiel pour arriver à faire plein de choses, il a les capacités, et après c'est une question de travail et d'implication et de discipline. Et nous on a tellement de mal, moi j'ai tellement de mal à voir le résultat final, tellement de mal à me dire maintenant aujourd'hui je vais pas faire une chose parce que dans le futur il y aura un résultat. Et que Dieu me fasse grandir dans ça, c'est ce que Dieu veut développer en nous, qu'on ait cette sagesse de regarder le résultat final et pas le fait d'être corrigé sur le moment et la difficulté du moment. Dans Romains 5, du verset 1 à 5, il dit, c'est Paul qui parle, il dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. » La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous sommes fiers même de nos détresses. C'est toujours facile à lire, mais toujours difficile à penser quand nous sommes au milieu de l'épreuve. Et donc, il leur dit... Alors, certes, au premier abord, c'est un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Et ça, peut-être, c'est un petit peu l'idée. En tant qu'enfant, si vous avez fait quelque chose de mal, si vous aviez dans votre famille piqué une crise et qu'il était évident que vous étiez en tort et que vos parents sont obligés d'un petit peu vous corriger, sur le moment, ça, c'est jamais agréable. Mais dans cette situation, il y a toujours un peu une sorte de tension, une culpabilité, un regard vis-à-vis des autres. Je sais que vis-à-vis de mes frères et sœurs, ils savent très bien que je suis en tort, mes parents aussi, moi aussi, mais en même temps, je ne veux pas changer d'avis. Il y a un petit peu, d'une certaine manière, une séparation dans la famille. Et la correction, souvent, une fois que papa m'a donné la fessée, je me suis calmé et après, c'est un peu comme si l'unité revient et la paix, la justice est revenue d'une certaine manière. Il y a cette tranquillité, une paix de savoir que c'est bon, maintenant je suis bien, je suis là où il faut que je sois. Et Dieu ne nous punit pas à proprement parler pour nos péchés, il ne nous fait pas endurer toujours la colère qui devrait nous être donnée pour nos péchés. Jésus a pris cette colère. Dieu parfois nous permet malheureusement de vivre avec les conséquences de nos péchés. Mais le fait d'être corrigé par le Seigneur, qu'il nous reprenne, qu'on fasse le deuil de quelque chose dans nos vies, d'un péché, d'un tort, ou quelque chose que nous avions mal fait, et d'ensuite pouvoir revenir à lui, revenir dans la famille de Dieu, et savoir que c'est bon, j'ai été corrigé, il y a une paix. Et c'est quelque chose de bon, de savoir que nous pouvons être en famille, que nous sommes comme Dieu veut que nous soyons ensemble et c'est quelque chose de bon. Alors il leur dit tout ça, il les encourage avec cette idée d'endurer les difficultés et ensuite, au verset 12, il leur dit « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants et faites des voies droites pour vos pieds afin que ce qui est boiteux ne se démette pas mais plutôt soit guéri. » Alors ici, encore une fois, avec le contexte de tout le livre, c'est encore une fois un petit peu une petite claque, un petit peu bon, je vous ai expliqué, Jésus est supérieur à tout ce qu'il y a dans la foi hébraïque, il est supérieur par sa personne à tous vos ancêtres, il est supérieur à tout dans ce qu'il peut faire pour nous, dans ce qu'il a fait pour nous. On peut regarder tous les encouragements, ensuite regarder tous les anciens dans le chapitre 11, tout ce qu'ils viennent nous dire à propos de Jésus, de regarder Jésus, d'être encouragé, de savoir que ces difficultés ne sont pas des punitions, mais que c'est des corrections, que nous sommes dans sa famille. Et puis c'est un petit peu comme s'il dit, donc maintenant je vous ai expliqué tout ça, donc maintenant, allez quoi, on y va, on fait ce qu'il faut faire, on agit. Levez-vous. Ces versets 12 et 13, c'est un petit peu comme un entraîneur qui reprendrait quelqu'un à la mi-temps ou à une pause pendant un match où ils sont en panique, ils ont l'impression de tout faire de travers, et là, il les secoue, il leur dit « Bon, maintenant, vous savez, vous revenez, faites les bases, vous les avez faites mille fois aux entraînements, maintenant vous revenez à ça, allez !» Il leur dit, en quelque sorte, et les versets qui vont suivre donnent cette idée, maintenant, mettez vos vies en ordre et continuez à vivre la foi chrétienne. Verset 14, il leur dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Et veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard il a voulu obtenir la bénédiction mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Alors, après les versets 12 et 13, en se disant que c'est un encouragement fort pour agir, nous, de nos jours, on pourrait se dire, bon, il veut qu'on fasse des croisades, qu'on aille faire des... pas des croisades au sens de l'ancien temps, mais des croisades peut-être évangélistiques, pardon. J'ai vu dans vos yeux que c'était mal passé. le choix des mots, le choix des mots. Si je vous dis vivez pour Jésus, faites de grandes choses pour Jésus, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est des actions, c'est des... Et là, il leur dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. C'est un peu... veillez à ce que vos relations avec les gens autour de vous, que vous soyez en paix et que vous soyez, vous, en paix avec Dieu. Ça semble un peu... peut-être un peu... Alors, en tant que chrétien, on sait que c'est important, mais ça peut sembler un petit peu... pas vraiment un peu trompeur, quoi. On se dit, mais... après tout ça, tu me fais 12 chapitres pour me dire « Soyez en paix avec tout le monde ». Ça semble un petit peu « Vivre tranquillement dans mon coin, en paix avec tout le monde, en recherchant la sainteté ». Mais c'est ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Et souvent, on a besoin que nos idées préconçues et ce que nous pensons soient corrigées. Et je pense que d'une certaine manière, ici, moi, en tout cas, je dois être corrigé. Souvent, je pense que je peux venir, c'est plus important que je vienne faire de grandes choses à l'église, mais lui... Dieu accorde tellement d'importance à notre caractère personnel, tellement d'importance à notre relation, nous avec lui et nous avec les gens qui sont autour de nous dans l'immédiat. Et l'idée de rechercher la paix avec tous, c'est l'idée de la poursuivre, de vraiment faire ce que nous pouvons pour être en paix, pour avoir de bonnes relations avec les gens autour de nous, pour avoir un bon témoignage autour de nous. Ça ne veut pas dire que nous l'aurons toujours. Il y a des limites dans cette poursuite. On ne doit pas remettre certaines choses de la foi chrétienne, d'autres choses qui nous demandent à poursuivre, d'autres choses qu'on doit faire en question pour arriver à être en paix avec les gens. Si les gens nous détestent parce qu'on défend un mariage, un homme et une femme, ces gens-là, on ne pourra peut-être pas avoir la paix avec eux. C'est un exemple, mais ça veut dire que nous devons rechercher la paix avec les gens autour de nous. Et la progression dans la sainteté, l'idée d'être saint, c'est l'idée d'être séparé pour. Si on lit les définitions dans les dictionnaires, il y a par exemple la qualité d'une personne sainte qui recherche la perfection morale ou religieuse, ou encore la sainteté et le caractère de ce qui est saint. Ce terme d'origine religieuse désigne une personne qui recherche la perfection morale aux yeux de Dieu, ou qui a déjà été touchée par la grâce de ce dernier. L'idée qui peut venir, c'est l'idée d'être consacré, c'est-à-dire d'être réservé à, c'est-à-dire d'être destiné de manière exclusive à quelqu'un. Et donc ici, c'est d'être réservé à Jésus. Et dans ces définitions, c'était intéressant parce qu'en lisant ces choses, je me disais, mais la perfection morale, c'est un petit peu... de nos jours, ça devient quelque chose de subjectif. Si on dit à quelqu'un la perfection morale, ils vont dire oui, alors il y a certaines choses, mais peut-être pas d'autres choses. Et dans la Bible, c'est l'idée de la perfection morale selon Dieu. C'est faire sa volonté. Et on sait que c'est ce que Jésus a fait. Il a fait jusqu'au bout la volonté de son Père. Et c'est pour ça qu'il a, il a réussi sa mission. Pour nous, c'est une question, pour moi en tout cas, est-ce que je me soucie de la sainteté? Est-ce que je cherche à être saint? Est-ce que, un petit peu ce que je vous disais au début, est-ce que le matin je me lève et je dis « Quelle est ta volonté, Seigneur, aujourd'hui ?» Il y a des choses écrites dans ta parole que je dois faire ou pas faire. Il y a d'autres choses... Qui sont plus de l'ordre de la relation avec toi, mais est-ce que je me lève ce matin et je dis, je veux faire ta volonté? une autre idée de voir la chose dans l'idée d'être séparé ou d'être réservé à Dieu, c'est est-ce que nous nous soucions plus de ce que Dieu pense de nous? Est-ce que quand nous sommes face à une question, face à une situation, face à une difficulté, face à une question, est-ce que ma première réaction c'est de dire « Dieu, qu'est-ce que t'en penses ? Dieu, qu'est-ce que ta parole dit ? Dieu, quel est ton avis dans cette situation ?» Ou est-ce que j'ai plutôt tendance à me tourner vers ma famille ou vers mes amis ou vers même d'autres chrétiens éventuellement ou les réseaux sociaux ou les journaux d'une certaine manière, c'est est-ce que je laisse la sainteté, c'est est-ce que je laisse Dieu dicter ma conduite ou est-ce que je laisse le monde dicter ma conduite? Et de nos jours, par exemple, avec l'idée du mariage, on voit que la position que moi personnellement et que notre Église pense être la position de Dieu depuis la Bible, c'est quelque chose qui est mis en question par la société et qui est attaqué. Et vous pouvez trouver des églises, des chrétiens, des gens qui vont le remettre en question, qui vont se détourner de ce que moi je pense que Dieu dit pour aller faire autre chose parce que le monde, parce que etc. Et il y a beaucoup de situations morales et de questions morales où c'est le cas de nos jours, et peut-être de plus en plus. Et être saint, c'est dire non, je suis d'accord et je suis OK pour être différent. Et moi, je sais que c'est difficile parfois dans des situations, dans des conversations avec vos collègues au travail, avec des amis, avec des gens que vous croisez. Il y a des questions morales qui surviennent où on se sent un petit peu comme des étrangers, des gens bizarres. Parce qu'on dit, non, je veux faire ce que la Bible me dit, je veux faire ce que Dieu me dit. Et finalement, c'est assez révolutionnaire dans la société de nos jours, l'idée qu'on ne fasse pas juste ce qui nous fait plaisir, ou du bien, ou ce dont j'ai envie sur le moment, mais qu'on permette à Dieu de dicter notre conduite. C'est pas ce que nous dit le monde. Est-ce que vous avez déjà vu des gens d'une culture différente de la vôtre, peut-être du Moyen-Orient, peut-être d'Afrique, peut-être pour ceux qui sont européens, etc., mais, ou peut-être d'Asie, qui ont fait quelque chose devant vous, peut-être chez eux, qui vous a semblé très bizarre? Ça vous est déjà arrivé ou j'en sais rien, ça peut être peut-être vous avez fait un voyage ou peut-être vous avez des amis et eux, ils ont des coutumes, des choses culturellement qu'ils font, naturellement, qui pour eux sont normales, mais qui pour moi me semblent venir de l'espace, quoi. Je regarde ça et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que si vous en avez en tête, j'aime bien cette idée parce que d'une certaine manière, je pense que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons pour le monde, que le monde nous regarde et se dise, mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Et bien souvent, ça peut énerver, mais je pense que c'est une bonne visualisation de comment on devrait être pour les non-croyants. Et alors certains, et vous l'avez déjà vécu, vous avez déjà fait l'expérience, vous avez peut-être partager quelque chose, un choix, quelque chose dans votre vie, et les gens vous disent « Mais quoi mais pourquoi est-ce que vous feriez ça ?» Alors, il nous dit de rechercher la paix avec tous, et ensuite il nous dit de progresser dans la sainteté, et puis il lâche une petite grenade à la fin de ce petit verset où il dit sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Et je pense que simplement nous pouvons dire si nous voulons voir le Seigneur, nous devons rechercher à être saints. Dieu nous pardonne et Dieu nous fait miséricorde. Dieu va nous corriger, va nous travailler pour que nous devenions plus comme il veut que nous soyons. Mais nous devons rechercher, nous devons être actifs là-dedans. il y a un risque de, si la sainteté c'est quelque chose que nous à laquelle nous n'accordons aucune importance, le texte nous dit qu'il y a un risque de ne pas voir le Seigneur. La vision ou les effets exacts de ça, je ne sais pas. Il y a des théologiens qui débattent des détails, etc., des idées théologiques, mais l'idée, c'est que nous devons accorder de l'importance à la sainteté pour voir Dieu. Nous devons chercher à faire sa volonté si nous voulons le voir. Dans l'idée de « personne ne verra le Seigneur », c'est aussi intéressant de se dire peut-être que ça veut dire que les autres ne verront pas le Seigneur à travers nous. Et de se dire que peut-être que la sainteté que nous recherchons à vivre, ça permet aux autres de faire l'expérience du Seigneur ou de voir le Seigneur. C'est ce témoignage que Dieu veut en nous aussi. On va s'arrêter là pour ce matin, vu qu'il y a le baptême et tout ça, et Pierre pourra continuer à partir du verset 15. Mais je voulais juste revenir sur cette idée de sagesse et l'idée de nous ne sommes pas citoyens du monde, nous devons nous considérer comme des citoyens du ciel. C'est cette idée de différence culturelle, encore une fois, cette idée d'être différent. Et je m'encourage et je nous encourage à être des témoins à ce niveau-là. Et comme l'auteur ici dans le texte nous dit de persévérer dans les difficultés, de persévérer dans les épreuves, de continuer à vivre comme Dieu nous le demande, je nous le dis, continuons dans cette voie. La lettre aux Hébreux a développé pendant quasiment tout le livre l'idée il y a que Jésus. Jésus est supérieur à tout le reste. Jésus, c'est le mieux. Et il veut, comme un père, nous développer au plus haut du potentiel de nos vies. Cette idée de correction, cette idée de difficulté, on ne doit pas ne pas la comprendre. Dieu veut pour chacun d'entre nous le meilleur. Il veut pas la sainteté. Des fois, on se dit que c'est des règles, des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais Dieu, il nous donne ces choses. C'est l'idée, il veut nous dire ce qu'on doit faire pour arriver à la meilleure issue possible pour nos vies. Et soit, on doit ne pas l'oublier, s'encourager à les uns les autres et continuer à le vivre. Prions. Seigneur, merci pour ton amour pour nous, merci que nous sommes tes enfants, merci que tu nous corriges, que tu nous vois et que tu nous aimes et que tu veux nous faire grandir, tu veux nous sanctifier, tu veux nous faire devenir semblables à ton Fils. Pas parce que tu le veux toi de manière égoïste, mais parce que tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et Seigneur, je te remercie pour ce texte, de ce qu'il m'encourage, des situations dans la vie où il m'explique, où il m'aide à comprendre comment me comporter et comment prendre position, Seigneur. Aide-nous en tant que chrétiens, en tant que croyants, à rechercher la paix avec les gens autour de nous et à rechercher la sainteté. Seigneur, à rechercher la relation juste envers toi. Sois glorifié ce matin, nous te prions pour le baptême. Seigneur, que notre coutume qui peut sembler très bizarre pour les gens du monde puisse être un témoignage sur la plage tout à l'heure, Seigneur. Que si possible, il y ait des gens qui te voient, qui apprennent à te connaître grâce à ça. Merci pour ce matin, merci pour cette famille que nous avons et que nous sommes en toi. En ton nom, nous prions. Amen.